Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vendredi 12 mai et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Sommes-nous toujours un pays attractif pour les investisseurs étrangers ? Pourquoi faire concurrence à Tesla est-il si difficile ? Et enfin, où en sommes-nous dans la guerre du streaming ? Vous aurez les réponses à ces questions en écoutant ce podcast. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, 7 infos dès 7h.
Elon Musk démissionne de son poste de CEO de Twitter. Elon Musk l'a annoncé dans un tweet, évidemment. Le patron de Tesla a ajouté avoir trouvé une nouvelle directrice générale pour le réseau social. Elle devrait entrer en fonction dans environ 6 semaines. Selon le Wall Street Journal, Linda Yaccarino, directrice de la publicité du groupe de médias américain NBC Universal, serait en négociation pour ce fameux poste de directrice. Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'évolution de l'entreprise. Mon rôle passera à celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les systèmes d'exploitation, a-t-il continué dans un tweet évidemment. En novembre, Musk avait déjà révélé qu'il prévoyait de réduire son temps de travail chez Twitter et de trouver un nouveau dirigeant pour l'entreprise. Cette décision devrait apaiser les inquiétudes des investisseurs de Tesla, qui s'inquiètent de plus en plus du temps que Musk consacre au redressement de Twitter. L'action du constructeur de véhicules électriques a fini la séance en hausse de 2,1% suite à cette nouvelle. La Belgique fait-elle toujours partie des pays les plus attirants pour les investisseurs étrangers ? Eh bien, cela dépend, selon Marie-Laure Moreau, qui est partenaire chez EY Belgique, le cabinet d'audit qui a mené ce baromètre. Elle répond aux questions de notre journaliste François-Xavier Lefebvre.
L'année 2022, on va dire, elle est moyenne. On a un recul des investissements directs étrangers de 4% par rapport à une moyenne européenne qui gagne 1% en termes de nombre d'investissements directs étrangers. On passe en effet de la 6e à la 9e place, qui n'est pas nécessairement un bon bulletin. Par contre, en termes de création d'emplois, on a une belle tendance à la hausse de plus 16% par rapport à une moyenne européenne qui décroît, elle, de 16%.
Si la Flandre affiche, elle, un bon bulletin, la Wallonie, en revanche, a enregistré sa plus mauvaise année depuis 10 ans. Pour quelles raisons ? Explication de Marie-Laure Moreau.
Il y a 3 éléments qu'on peut mettre en évidence. Le premier, c'est que la Wallonie a une politique d'attractivité plus sélective. Ils recherchent avant tout la qualité des projets d'investissement étrangers plus que la quantité, donc des investissements qui sont plus structurants en termes d'écosystème ou de création d'emplois. Le deuxième point, c'est que la Wallonie a souffert peut-être de la concurrence, notamment des pays de l'Est qui ont des coûts de la main-d'œuvre nettement plus faibles, également de la fiscalité hollandaise qui est plus avantageuse, et ne le cachons pas, de la dynamique entrepreneuriale flamande qui d'ailleurs se voit dans les chiffres de ce baromètre. Peut-être qu'en Wallonie, les filières de l'économie wallonne sont plus dépendantes, ont été plus touchées par la pandémie. Pensons notamment à la sous-traitance automobile, à l'industrie du verre, la construction, également le secteur de l'aérospatial qui ont été fortement touchés par la pandémie.
Bon. L'année 2023 s'annonce heureusement beaucoup plus prometteuse pour la Belgique. Ceux qui envisagent d'investir sont notamment très intéressés par la logistique, une activité essentielle pour notre économie, puisque nous faisons partie des champions européens en la matière. Notez que les États-Unis restent le plus gros investisseur étranger en Belgique, suivi de la France et du Royaume-Uni. La nouvelle stratégie d'Engie continue de faire ses preuves. C'est ce qu'on constate en regardant les bons résultats du groupe pour ce premier trimestre. Engie s'est reposé sur ses nouveaux leviers de croissance, à savoir les énergies renouvelables et les services énergétiques, et a démarré l'année sur des bases qui lui permettent de confirmer ses objectifs annuels de résultats. Objectifs situés entre 3,4 et 4 milliards d'euros. Comme annoncé lors du précédent rendez-vous, le groupe communique désormais ses résultats en excluant ses activités nucléaires. Ce pôle dispose désormais de sa propre colonne dans les tableaux de chiffres. Au premier trimestre, l'activité nucléaire belge a reculé de 33% par rapport à l'année dernière. Cela s'explique principalement par les arrêts des réacteurs Doel 3 et Tihange 2. Même si les bits nucléaires, son bénéfice avant les charges et les produits financiers et avant l'impôt, se monte tout de même à 389 millions d'euros. La BCE se fait rappeler à l'ordre par la Cour des comptes européenne. Elle doit renforcer son contrôle des banques. En effet, la Cour des comptes publie aujourd'hui un rapport de son audit de la BCE dans lequel on évalue sa politique en matière de surveillance des banques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la copie est à revoir. C'est le risque de crédit auquel les banques sont exposées qui est notamment pointé du doigt, c'est-à-dire le risque que prennent les banques dans le cas où leurs clients ne peuvent rembourser leur crédit. Mais ce n'est pas tout. Gilles Coistio, bonjour.
Bonjour Sen.
Vous vous êtes penché sur le rapport de cet audit pour l'Écho. Plus concrètement, qu'est-ce qui est reproché à la Banque Centrale Européenne ?
La Cour des comptes, elle pointe toute une série de problèmes, notamment un problème de lenteur dans le processus de surveillance, hein, qui fait que ça donne lieu à certaines évaluations qui sont finalement obsolètes. Alors, un des autres problèmes qui concerne les banques, ce sont les banques qui sont le plus exposées à ce fameux risque de crédit. Et selon la Cour des comptes, eh bien, la BCE ne renforce pas suffisamment ses exigences de fonds propres par rapport à ces banques qui sont plus à risque que les autres. Donc, il faudrait qu'elle demande des fonds propres encore supplémentaires à ces banques plus à risque. Et aujourd'hui, la BCE ne le fait pas. Alors, un des autres problèmes que la Cour des comptes a pointé, c'est aussi le manque de personnel qui est affecté à la tâche de la surveillance bancaire.
Merci Gilles. Rappelons que cette surveillance du risque de crédit a été justement mise en place suite à la crise des subprimes en 2008, notamment causée par des défauts de remboursement de prêts hypothécaires. Rivian, Lucid, Nikola, NIO, Polestar, ces noms sont ceux des challengers du géant de l'électrique, censés faire de l'ombre à Tesla. Xander Vlassenbroek, bonjour.
Bonjour Sun.
Vous êtes un des journalistes qui écrivait sur les marchés à l'Écho, et il semble qu'il ne soit pas si facile que ça de faire concurrence à la firme d'Elon Musk. Les Tesla Killers, comme on les appelle, font pâle figure sur les marchés, comme sur la route.
Ben oui, en effet, depuis le début de l'année, on voit que tous ces concurrents à Tesla qui s'étaient lancés en bourse en 2021 ou en 2022 même, ils font pâle figure, comme vous le dites, sur les marchés. Ils sont tous en baisse, si pas quelques exceptions. Et puis surtout, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs de vente pour la plupart. En fait, on vend quelques milliers de véhicules à chaque trimestre, alors que Tesla vend plusieurs centaines de milliers de voitures. Donc clairement, on voit que les concurrents de Tesla, autoproclamés entre guillemets, ne sont pas à la hauteur, ou en tout cas pas encore.
Et qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui empêche ces entreprises de faire au moins aussi bien que Tesla ?
Tesla s'est lancé dans une guerre des prix, donc ils ont décidé plusieurs fois en fait de baisser le prix de leur voiture pour en fait pouvoir vendre plus de modèles. Par contre, tous ces nouveaux arrivés sur les marchés, ils doivent d'abord écouler les stocks qu'ils ont créés et donc ils peuvent pas les vendre à n'importe quel prix alors qu'ils font déjà d'énormes pertes. Donc on va dire qu'il y a une économie d'échelle qui empêche les nouveaux arrivants de se faire une vraie place sur les marchés.
L'ancien ministre PS Jean-Pascal Labi s'est vu infliger une amende par la FSMA pour avoir diffusé des informations confidentielles sur les négociations de fusion entre Bpost et PostNL. Cette nouvelle tombe au moment où Bpost traverse probablement la crise la plus profonde de son histoire. La procédure administrative était en cours depuis plusieurs années et vient de s'achever. Pour rappel, Labi avait jeté une bombe rue de la Loi et place de la Monnaie le 27 mai 2016 en lançant un scoop dans l'émission Matin Première à la RTBF. L'homme fort du PS y avait annoncé que des discussions approfondies étaient en cours sur une fusion de Bpost et de son rival néerlandais PostNL et que l'État belge réduirait sa participation dans l'entreprise publique cotée en bourse. À la suite de l'interview, les transactions sur les actions de PostNL et de Bpost avaient été interrompues et le dossier était devenu flou. Deux jours plus tard, Bpost avait annoncé que les négociations avec PostNL avaient été interrompues. Faut-il communautariser les quotas Inami ? En tout cas, en Flandre, la NVA et le CDNV poussent le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, dans cette direction. Hier, les deux parties ont fait la grimace en apprenant que près de 1000 médecins sortiront des universités francophones en 2029. La hausse est importante, c'est 83% de plus qu'en 2027. Cela les énerve d'autant plus que la veille, ils avaient appelé à lever la tutelle fédérale sur les quotas de médecins. Ce transfert de compétences viserait à mieux lutter contre le manque de médecins et de dentistes en Flandre, disent-ils, mais pour cela, il faudrait passer par une réforme de l'État. Face aux critiques de la NVA et du CDNV, Frank Vandenbroek a proposé d'assouplir les quotas d'étudiants en première année de médecine. Ceux-ci augmenteraient de 8%, soit 1607 étudiants en tout. Mais la Flandre n'avait pas attendu le ministre pour agir, puisque 1600 places en médecine seront ouvertes à la rentrée dans les universités flamandes. Beaucoup plus donc que ce que prévoit le comité de planification pour 2023. Vous êtes mordus de séries et de films en tout genre ? Je vous annonce une nouvelle bataille dans la guerre des plateformes de streaming. Le 23 mai, et en plein festival de Cannes, le géant Warner Discovery va lancer une grande offensive dans le streaming. Après la fusion l'an dernier avec Discovery, ces deux plateformes de vidéos à la demande par abonnement, HBO Max et Discovery Plus, ne vont plus en former qu'une. Les deux noms disparaîtront pour devenir tout simplement Max. Et le nouveau service arrive avec du lourd. Des séries à succès comme Game of Thrones, House of the Dragon, des franchises comme Superman et Batman, et bientôt l'adaptation en série de la saga Harry Potter. Une nouvelle offensive qui a de quoi agacer les deux géants que sont Netflix et Disney+, alors que le premier plafonne et le second continue de perdre des abonnés. Ensemble, HBO Max et Discovery comptent aujourd'hui 96 millions d'abonnés et en visent 130 d'ici 2 ans. Max sera d'abord lancé aux États-Unis et l'an prochain en Europe et en Asie. Sera-t-il disponible en Belgique ? Mystère. En tout cas, à ce stade, BTV est toujours le partenaire exclusif d'HBO pour la Belgique francophone. Cet épisode a été préparé avec l'aide de Florent Schaus. Je vous retrouve lundi. Serge Quadbac sera mon invité. En attendant, passez un très bon week-end, déconnecté, et à lundi pour un nouveau brief.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.